Bienvenue à Mon Ciné Balado, épisode spécial Menteuse, en compagnie de Jean-François Breton. Oui, pour les habitués du podcast, mon co-animateur Patrick Marleau brille par son absence. Même lors de l'entrevue avec l'équipe, il n'était pas là. Il est en vacances actuellement. Il m'a d'ailleurs envoyé une photo. Il est en Norvège avec la fameuse montagne où Tom Cruise a fait son saut en motocross dans le précédent volet de Mission Impossible, Dead Reckoning. Alors, je ne sais pas s'il se lance sur un pèlerinage Mission Impossible et qu'il va faire toutes les scènes des cascades. Voilà, alors on est passionné de cinéma, vous savez. Alors, le cinéma nous habite même dans nos vacances. Bref, pour revenir à nos moutons, Menteuse, vous avez sûrement vu des promotions, qu'est-ce qui se passe, des annonces, c'est partout. Ça vous sonne peut-être une cloche? Ben oui, c'est la suite du film Menteur qui avait été le plus gros succès québécois de l'été 2019, de l'année 2019 en fait. D'ailleurs, fait insolite. Aucun film québécois n'a eu un aussi gros succès que Menteur depuis, là, c'est sûr. Il y a eu la pandémie, il y a eu les cinémas fermés et tout, mais là, tout est en hausse. 2024 avait été une très bonne année. Et je crois que Menteuse pourrait être le film qui vient détrôner Menteur pour le nouveau grand succès québécois. Attention, Menteur, quand je dis ça, je pars loin. C'est pas le plus grand succès de tous les temps québécois. Là. Je pense que c'est Bon Cop, Bad Cop. Mais bref, c'est le dernier plus grand succès, si on veut. Là. Je pense qu'il avait fait, j'ai envie de dire 5 millions de dollars, peut-être même 6. Alors que là, je pense que le dernier plus gros succès, c'est Nos Belles Sœurs avec 3 millions. Voilà, bref. Menteur, c'était les personnages de Louis-José Houde et d'Antoine Bertrand. Louis-José mentait à qui mieux mieux pour bien paraître et à un moment donné, ses mensonges sont devenus réalité. Alors, il a fallu qu'il défasse les mensonges, à dire la vérité pour que tout reprenne l'ordre normal des choses. Et il y avait une petite ouverture avec le personnage d'Anne-Élisabeth Bossé, qui joue la conjointe d'Antoine Bertrand, de Phil, qui disait qu'elle aussi mentait beaucoup. Alors là, ça repartait pour dire « Ah oh non, il y a une autre super menteuse sur la Terre. » Alors, c'est ici qu'on arrive avec Menteuse où les mensonges du personnage d'Anne-Élisabeth Bossé, de Virginie, vont devenir réalité. Et encore une fois, Phil va devoir aider à défaire tout ça. Lui qui est le seul qui, puisqu'il a vécu de l'intérieur l'aventure du premier film, se souvient de tout ça. Tous les autres ont perdu la mémoire de tous ces changements d'univers, de multivers-là. Qui est une bonne façon, finalement, de jouer avec les codes des fameux multivers de super-héros où on se promène d'un univers à l'autre pour se battre, tandis que là, d'un univers à l'autre, des fois, notre personnalité, notre rôle social, notre statut social a complètement changé. Fait qu'on utilise ces codes-là, on va être plus en profondeur même dans la raison de pourquoi son personnage vient à mentir. C'est pas juste pour bien paraître, c'est pour essayer de consoler tout le monde, de rendre les gens mieux dans leur peau, de les valoriser, sauf qu'on finit par plus savoir c'est quoi notre propre vérité là-dedans, avec un film plus abouti, en fait, que le premier à ce niveau-là. Même si moi, personnellement, je préfère mes comédies un peu plus ranchy, un peu plus comédie noire, absurde et tout. Et autres. J'ai quand même trouvé mon compte dans ce film-là. Plusieurs blagues m'ont bien fait rire dans ce film-là. Une distribution incroyable des personnages et des comédiens très habités. On discute avec l'équipe. Il était venu à Québec. Le réalisateur et co-scénariste Émile Godreau, l'idéateur principal du projet, et les comédiens comédiennes Antoine Bertrand et Anne-Élisabeth Bossé. Fait qu'on discute du processus, du cheminement entre les deux films, comment on travaille une comédie. C'est un sujet qu'on avait abordé, je me souviens, avec l'équipe de Ville et Misérable il y a quelques mois, mais c'est un genre un peu différent. Fait qu'eux aussi, comment ils voient ce processus-là? Est-ce qu'on est dans l'improvisation? Comment on fait le timing d'une bonne blague ou même dans leur propre carrière? De naviguer entre la comédie, le drame. J'aborde aussi parce que Émile a toujours fait des films qui ont eu un gros rayonnement, un gros succès, qui ont même été adaptés dans d'autres pays. Le fait qu'on appelle ça des comédies grand public, est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu dénigrant à ce terme-là? Alors, il nous livre ses opinions et même chose pour les comédiens qui, eux, jouent dans des projets parfois plus nichés, parfois plus larges. Qu'est-ce que ça veut dire mainstream un peu? Fait que c'est un plaisir de jaser avec ces gens-là. C'est des gens très chaleureux, très généreux de leur temps, de leurs idées, de leurs pensées. Et donc, je recommande chaudement à tous d'aller voir Menteuse, qui prend l'affiche le 9 juillet partout au Québec. Je ne sais pas encore le nombre de copies d'écran, mais ça doit être vraiment à tous les endroits. En plus, que c'est l'été, les cinéparcs sont ouverts, les quelques cinéparcs. Alors, voilà. Et pour ce qui est de nous, mon ciné-balado, les épisodes réguliers, ben Patrick est encore en vacances pour quelques semaines, fait qu'on reprend en épisode régulier le 18 juillet, où on couvrira le lot de... Ça risque d'être un bon épisode, le lot de toutes les sorties du 18, plus celles qu'on aura manquées, là, Superman, Jurassic, etc. Moi, j'aurai des vacances plus tard au mois d'août, mais bref, chaque chose dans son temps, là, on gardait un peu de secret à tout ça. Alors, voilà, je vous lance avec... cette entrevue que j'ai faite avec la merveilleuse équipe de Menteuse. Bienvenue à mon ciné-balado, épisode spécial Menteuse, en compagnie du cinéaste, réalisateur et co-scénariste Émile Gaudreau et des comédiens et comédiennes Antoine Bertrand et Anne-Élisabeth Bossé. Bonjour gang!
Bonjour!
Merci de l'invitation.
Pire mensonge à vie, guys. Non,
ça part avec la question
non,
touchée.
Non, c'est ça, okay, je disais hors d'onde que j'allais pas faire ça. Fait. C'est un callback pour ceux qui étaient ici. Mais par contre, si on revient un peu dans le passé, Menteur est encore le plus gros succès depuis post-pandémie. Dans le fond, il n'y a eu aucun film qui a été un aussi gros succès au box-office québécois depuis Menteur. Et je regardais ta filmographie, Émile. T'as beaucoup de gros succès québécois et de comédies.
C'est pas gênant, hein?
Ouais, c'est ça, qu'on dirait grand public. Est-ce que, dès le départ, c'est un peu ça que tu visais, tu sais, ou
Ben écoute, quand j'ai écrit Louis XIX avec Sylvie Bouchard, ouais. Là, tu sais, je sortais du groupe Sanguin. Là. J'avais 26 ans, on venait de faire 700 shows avec le groupe Sanguin. Et le groupe Sanguin, à l'époque, dans les années 80, là, tu sais, c'est qu'on faisait des méga tournées, on a fait 100 villes au Québec, tu sais. On allait partout. Donc nous, naturellement, c'était grand public. T'sais, notre humour était grand public. On a des gens qui disaient que c'était un peu bon enfant, des personnages, c'était quand même très chaleureux. Puis moi, j'étais là-dedans, c'était mon ADN. Donc, quand j'ai commencé à écrire Louis XIX, le premier scénario que j'ai écrit, ben c'est une continuité. Donc, je me suis jamais posé la question, est-ce que moi, je veux être grand public ou je veux pas être grand public? C'était juste, j'écrivais Louis XIX, puis là, je sortais de je me disais, ah, ça va marcher, ça. T'sais, j'étais comme chargé de toute cette expérience-là, de scène, d'être devant du public, puis de faire rire des gens, écrire, faire rire, écrire, mettre en scène, faire rire. Ça fait que ça a été une continuité. Ça fait que j'ai jamais eu cette question-là. Mais quand j'étais jeune, quand même, t'sais, moi, je voulais être Stephen King, tu sais.
Okay.
Quand j'ai des romans, je voulais être Stephen King, puis après ça, je voulais être Steven Spielberg, tu sais. Ça fait que j'étais quand même dans un... Je pense que j'avais intuitivement une espèce de volonté d'aller dans l'univers, vers quelque chose d'universel.
Puis, t'as-tu peur que des fois, on associe quelque chose de péjoratif à le côté grand public? Puis la question se pose
beaucoup dans le milieu du cinéma quand même. Puis même, je dois t'avouer qu'il y a beaucoup d'autres cinéastes. T'sais, j'ai souvent senti du mépris quand même. Là, puis des gens qui m'ont comme, mais tu sais, je sais pas si tu fais ça de façon sincère. Il y a vraiment des cinéastes qui m'ont demandé ça. Là, si t'es-tu authentique, toi, dans ce que tu fais? Puis je leur disais à ce moment-là, tu peux pas faire quelque chose qui résonne sans être authentique, je pense.
Grand public, ça veut... C'est pas un gage de qualité, nécessairement. Le McDo, c'est le restaurant qui pogne le plus. Ça veut pas dire que c'est bon. Mais il y a des gens qui réussissent à être grand public, puis être touchant, puis être intelligent. Il y en a qui le sont, là. Tu sais, Fred Pellerin, il va chercher plein de monde, puis c'est de la grande qualité. Fait que moi, je trouve qu'Émile, il est plus du type Fred Pellerin que du type
merci.
McDo.
Il y a personne, je pense, qui se lance dans cette aventure-là pour être petit public.
C'est ça.
Que ce soit un film d'auteur ou que c'est, tu sais, je pense que ces cinéastes-là veulent être vus par le plus grand public possible, tu sais.
Ou aller à Cannes.
Ouais, c'est ça. Ben là, c'est
qui est quand même une forme de grand public aussi.
Ben, c'est un public
ça, la
que tu vises. Oui,
mais c'est là où moi je dis, tu sais, si eux jugent le travail grand public, ben moi je juge ceux qui font un cinéma pour aller d'abord, pour plaire d'abord et avant tout à un festival. Tu sais, tu veux rejoindre un public.
Oui, voilà.
Puis après ça...
Puis souvent, ils vont pas non plus, hein?
De toute façon, il n'y a pas de recette.
Puis pour être allé dans une couple de festivals, souvent, tu sais, c'est... Il y a 8 personnes dans la salle, puis tu lis le topo de ça dans la presse, puis tu as l'impression que c'est un succès international. Faut relativiser, là. Ah, beau mentir qui vient de loin, là. Quand tu reviens de Cracovie-Vary, là, tu sais, là, je suis pas sûr que...
puis en même temps, tu sais, moi, j'adore les films, tu sais, plus personnels, plus indépendants, tu sais. cinéma que je vais voir aussi, tu sais. Donc, pour moi, c'est comme je me pose pas la question, en tout cas. Puis il y a pas de jugement non plus. C'est juste que des fois, tu fais comme, ben, regarde, moi, je fais mon travail, mais je travaille vraiment fort, on essaie de faire la meilleure affaire. Mais ça, depuis l'histoire de la création, la comédie est un petit peu méprisée. Puis je me suis dit, ben, c'est pas grave, tu sais.
C'est vraiment une relation qui est à sens unique, dans le sens où, je me souviens, Thierry Frémaux avait dit au Festival de l'Alpe d'Huez, qui est un festival de comédie, puis là, Thierry Frémaux, qui est le boss de Cannes, avait dit « Bonjour tout le monde, vous voyez pas nos films, on voit pas vos films, tout ça, mais on va faire semblant que, tu sais. » Et Gad Elmaleh est monté sur scène, puis il avait dit « Peut-être que tu vois pas nos films, nous on voit les vôtres, tu sais. » Fait que, je sais pas...
C'est présomptueux de penser que les gens ne seront pas intéressés par les deux.
Comme dit Émile, nous, on est des cinéphiles. Fait que si t'es un cinéphile, tu vois tous les genres de films. T'as besoin d'être porté par plein d'histoires.
Ben, mon film préféré dans les 10 dernières années, c'est quand même Parasite, tu sais, une Palme d'Or à Cannes. Tout en bas de ta chaise.
C'est super accessible, Parasite. C'est juste un très, très bon film.
Mommy, c'est un film d'auteur qui a rejoint énormément de gens. Fait que, tu sais, c'est grand public aussi.
Je sais pas si t'avais d'autres questions, mais nous, on peut rouler là-dessus encore.
Moi, il faut que je fasse du temps,
Mais tu touches une corde sensible parce que il y a une notion de facilité dans la comédie et dans le grand public. Et ceux qui pensent que c'est facile, je les invite à essayer. Parce que moi, je dis souvent, quand je veux prendre des vacances, je fais du drame. Puis c'est une pirouette, parce que il n'y a rien de facile dans le métier qu'on fait. Puis même faire un bon drame, puis écrire une histoire, c'est laborieux et c'est difficile, puis ça demande un travail puis une vigilance. Mais si tu penses que faire de la comédie, c'est facile, je t'invite à l'essayer.
T'sais. C'est super insultant qu'on ait dit que tu fais ça de manière authentique, comme si tu faisais ça de manière artificielle, qu'il y avait une recette à suivre pour être grand public et avoir un succès. Tout le monde le ferait. Tout le monde voudrait faire de l'argent et ferait ça.
Mais même moi, tous mes films auraient fait 10 millions de box-office.
Mais oui, c'est quoi cette affaire-là?
Ça, c'est de mauvaise foi parce que tous tes films ont fait 10 millions de box-office.
Non, mais c'est ça. C'est vraiment un débat qui n'arrêtera pas. Mais tu sais, on a ici Anne-Elisabeth qui a fait autant... Plan B, une performance dramatique, mais hallucinante de calibre international. Puis elle fait Gâté pourri en même temps, qui est cette espèce
puis
de feu d'artifice drôle.
Puis je fais de la radio à Rouge FM. Puis tu sais, j'ai aucun problème avec mon côté givré.
T'es à la aussi quand tu fais les mascottes à la ronde. Oui,
personne le sait, mais je me garde ça sur
plusieurs cordes à ton arc.
On ne dira pas laquelle tu fais, comme ça les gens qui s'en vont à la ronde cet été.
Allez faire des câlins, vous allez savoir. Je vais vous le dire dans l'oreille.
Vous avez une chance sur 10 de tomber sur Annie.
Puis, Antoine aussi, toi, t'as, autant avec La Femme cachée, t'as Mademoiselle Bottine, tu navigues dans tous les genres et les.
L'humour, le drame. C'est ça qui est le fun de notre travail, c'est que c'est pas routinier. On raconte différents types d'histoires, on joue différents types d'énergie, de personnages. C'est sûr que c'est ça le bonheur.
Puis moi aussi, quand même, j'ai écrit un drame d'horreur, tu sais, qui n'a pas été financé. On n'est pas là. Tu sais, j'ai écrit un film muet qui était là, une comédie complètement différente. Là, je travaille sur une comédie dramatique historique. Tu sais, il y a quand même beaucoup de choses qui m'intéressent aussi. Mais là, ça donne quand même que c'est plus facile pour moi de financer un film comme Menteuse aussi. Tu sais, puis j'adore faire ça, là. Mais c'est sûr qu'il y a aussi cette réponse-là de ce qu'on attend des institutions, peut-être, j'ai l'impression, là.
Peut-être. D'ailleurs, on viendra à Menteuse, mais depuis quelques années, tu as parti ta compagnie de production, les films du Lac. Est-ce que tu as justement un désir? J'ai vu que ça avait produit les Lignes de fuite, l'excellent Lignes de fuite. Au début, je pensais que c'était juste pour tes projets à toi, mais finalement...
Je devais réaliser Lignes de fuite au départ avec Catherine, puis j'ai fait un mini burn-out. J'ai dit, je peux pas faire ça, il y a eu la pandémie. Mais j'ai été co-scénariste tout le long de ce projet-là avec Catherine Chabot, puis j'étais effectivement co-producteur avec Denise Robert. Mais oui, pour
Est-ce
moi,
que
c'est...
Tu as un désir de produire des films de complètement d'autres mondes que tu touches pas au niveau créatif?
Oui, il y a des trucs que je développe, que je suis juste conseillé d'une certaine façon. Mais c'est surtout, je te dirais, quand je suis parti de cette compagnie-là, c'est surtout parce qu'il y avait une injustice financière. Simplement que ça n'avait pas de sens, la différence de salaire entre les producteurs puis moi, mettons, qui travaillait comme un fou pendant 2 ans, pendant 4 ans, mais à temps plein, puis tu dis, OK, mais là, cette personne-là qui était hyper compétente dans son travail, mais vraiment, mais elle en fait beaucoup plus que moi, tu sais. Puis là, je me suis dit, bien, écoute, moi, j'amène le scénario, j'amène le réalisateur, j'ai mes acteurs dans ma famille que j'amène avec moi, tu sais. Je fais la job d'un producteur, là, parce que c'est la moitié de la job d'un producteur, c'est de trouver un projet, puis de artistiquement le créer. Ça fait que ça a été vraiment, cette volonté-là. Puis oui, ça me passionne, puis oui, j'aime ça, les créateurs, puis lire les scénarios, puis essayer de les faire avancer avec eux autres. Mais à la base, c'était de me dire, moi, mes films, je dois qu'ils m'appartiennent un peu. parce que j'y mets tout de moi là-dedans.
Ouais, je comprends. Puis, ouais, puis là, tu peux pas non plus te mettre à produire tout le monde. Tu vas refaire un autre mini burn-out.
Oui, j'ai découvert quand même en lisant des scénarios. Tu sais, quand il faut toujours que tu lis des scénarios là, qui sont des plusieurs versions, j'ai quand même eu un petit respect en disant c'est vrai que les producteurs, c'est la job en maudit. Lire un scénario, puis le commenter, ouais. Puis essayer de motiver les scénaristes à continuer à écrire.
Ils font, ouais. ils font pas juste acheter une photocopieuse pour réserver des camions. Mais quand même, c'est vrai que t'amènes tout à la table. Parce que t'amènes l'histoire, puis c'est normal que t'aies ta part du gâteau.
C'est ça. Puis tu vois, là, ce film-là, je travaille avec André Dupuis, qui est extraordinaire, que j'adore, en qui j'ai une confiance absolue. Puis j'ai besoin de ça aussi, là. Je ferais pas ça tout seul, moi, tu sais. Je ferais pas m'accompagner tout seul, là, comme ton Louis Morissette peut faire. Je suis pas là-dedans, pantoute. Moi, je m'associe à quelqu'un qui a sa boîte, qui a son infrastructure, puis on le fait ensemble.
OK. Est-ce que après le succès de Menteur, c'est 2019 l'été, ouais. Est-ce que tu penses à une suite? Il faut qu'on capitalise là-dessus, puis il faut que j'écrive tout de suite.
Ben, ça a vraiment été une espèce de concours de circonstances. On avait une fin dans Menteuse qui fonctionnait pas du tout. Donc, on était vraiment coincé avec un problème d'un film qui marchait bien, mais qu'on avait une fin qui tombait en queue de poisson. Puis ça a été vraiment dans cette espèce d'urgence-là. Comment on finit ce film-là? Que moi, je me suis dit, attends, on a une menteuse dans ce film-là. On a le personnage de Virginie, joué par Anne-Elisabeth, qui avoue tout ce qu'elle fait en cachette dans l'urgence. Elle pense qu'elle va mourir. Puis on a ça, nous, dans le film. Puis on a des moines au début du film. Là, je me suis dit, on prend les moines, on les remonte, on fait venir Anne-Elisabeth, on est en montage, on fait venir Anne-Elisabeth, on la filme, on lui fait faire un petit truc, ça va être la dernière image du film. Là, c'était juste pour sauver Menteur, la fin en tout cas, pour qu'il y ait un kick, un petit sourire à la fin, quelque chose, mais quand même, on a fait « ouais ». C'est vrai que là, on a quand même une actrice de génie. On a une femme qui ment. Donc, ça nous a vraiment donné l'envie à Sébastien, puis à Éric et moi de se dire, je pense qu'on a... Puis on a commencé tout de suite en janvier 2020 à écrire Menteuse.
C'est ça, OK. Ça n'a pas pris de temps que vous
Non,
êtes,
mais c'est à partir du moment où il y avait cette fin-là qu'on s'est aperçu qu'il y avait cette possibilité-là.
Puis, est-ce que là, on ouvre la porte à...
Absolument, oui,
et
oui.
La suite encore et
oui,
encore.
Oui, oui, oui. Ça s'appelle Jeune Menteur.
OK.
Ce sera comme un adolescent de 13, 14 ans.
Je pensais que c'était Mentiel.
Mentiel. Un jeune menteur, je suis déjà intrigué.
Mentiel, c'est qu'il ment à soi-même sur son genre et son orientation toute sa vie. Ça devient vraiment un drame intimiste. Puis...
Oui. Et là, tout d'un coup, on se rapproche plus du film d'auteur que tu as toujours voulu faire.
Ouais. Et tu peux aller le filmer au lac, comme ça, tu vas avoir des shots de dos qu'on voit l'eau pendant qu'il y a une réflexion.
Pendant un bac moins dans la nuit.
Oui, ouais. C'est jamais vu.
Pendant 4 minutes, ce plan.
Voilà, ça sera le plan séquence du Québec.
Un peu de violoncelle, puis zoup!
C'est intelligent, soudainement, il y a une profondeur.
Est-ce que le fait de reprendre vos rôles, Antoine, Anne-Elisabeth, est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu... j'imagine que c'est grisant, c'est plaisant, mais dire... Tu sais, ton personnage était quand même secondaire, puis là, il devient à prendre beaucoup de place. Est-ce que tu auras envie de le modifier par rapport à ce qui était initialement?
C'est niaiseux, mais je me suis pas tant rattachée à ce que j'avais fait dans le premier film. Tout était à refaire, à construire, à approfondir. J'ai mis beaucoup de moi, on a beaucoup discuté, puis on l'a tellement creusé que ce que j'avais développé en surface, c'était plus comme la façon qu'elle a de pleurer, là, qui est un peu typique et ridicule, et on l'a amené à toute sa famille dans Menteuse. Mais non, c'est ça, j'ai pas le sentiment d'avoir à raccorder là, tant que ça. T'sais. Antoine, lui, c'était plus développé, j'ai l'impression que toi, t'as plus mis les souliers de fil. Là.
Oui, mais en même temps, pis c'est toujours l'occasion quand tu revisites une histoire aussi, tu peux l'amener plus loin. Tu sais, on a modifié quand même un peu fil par rapport à... Puis la nature aussi, vu que quand c'est ton frère qui ment, c'est une chose. Quand c'est ta femme, c'est ouais. Autre chose. T'sais, toi, tes mensonges sont différents, mais je veux dire, les répercussions pour moi, c'est la femme que j'aime, puis tout ça. Mais on y a rajouté une petite couche de psychorigidité aussi, t'sais, quelque chose d'un peu plus... Alors que dans le premier, oui, il était droit, mais là, il est... Là, sa droiture devient aussi une espèce de mensonge dans le sens où c'est pas un mensonge de pas accepter l'autre comme il est. Je pense que oui, tu sais, il y a personne de complètement blanc. Fait que ça donne un rebond pour des situations comiques. Puis aussi, ça nous permettait d'aller plus loin dans le personnage. Mais moi, je dis souvent, moi puis Anneli, c'était comme une répète, le premier film pour nous dans ouais. L'ensemble. Alors que là, tu sais... Là, tu sais, on passait nos journées ensemble, tu sais, à croiser le fer, puis à jouer au ping-pong ensemble, puis ça, c'était... Moi, j'espère que Jeune Menteur va nous permettre de le faire encore. Fun.
Je pouvais pas espérer une meilleure courbe qu'avoir le rôle de Virginie. Oh mon Dieu, décrocher la fin du film. Oh mon Dieu, t'sais, comme effleurer la surface de ce que j'allais faire avec Antoine. Pour moi, ça m'a juste détendu. J'ai vu comment Émile travaillait, puis ça m'a donné vraiment des ailes pour faire le deuxième. T'sais, pour moi, c'était idéal, là.
Est-ce que toi, t'abordes tes projets tout le temps de la même manière? Le réalisateur, Émile Godreau, est-ce que les 6 ans qui ont passé, 7 ans entre tes deux films, t'étais différent sur le plateau?
Ben, je pense que j'avais plus confiance, peut-être. T'sais. Puis j'avais une équipe aussi, il y avait Jean-François Laure à la direction photo, puis Karine Perron comme première assistante. Puis on avait vraiment une espèce de trio de feu, là, où il y avait une espèce d'énergie entre nous, puis de complémentarité, puis de compréhension totale du film qu'on était en train de faire, qui était extrêmement ambitieux, tu sais, pour le temps qu'on avait, pour les moyens qu'on avait. Mais on est allé quand même à fond là-dedans, en se disant, OK, comment on le fait, cette histoire-là, avec des effets spéciaux, avec des multivers différents, tu sais, donc il y avait... Je pense que c'est vraiment ça. J'ai plus une confiance, plus aussi, tu sais, en vieillissant, heureusement, tu te calmes un peu, t'es moins dans l'auto-jugement tout le temps. Tu sais, moi, je me jugeais beaucoup, beaucoup sur un plateau, puis c'était très désagréable pour moi, là. Les personnes le voyaient autour, mais moi, je me trouvais souvent pas bon.
T'sais, déjà que les nuits sont courtes, c'est
oui,
en plus, t'es gardé éveillé.
Donc là, c'était comme, j'étais plus en paix, si tu veux, avec qui je suis, je pense, comme réalisateur, puis aussi, surtout, l'équipe avec qui j'étais, que ça a fait une grosse différence. Mais comme je disais, c'est un film qu'on a écrit depuis tellement longtemps. Puis moi, j'aime vraiment ça, cette étape-là de l'écriture. Puis ce qui m'excite aussi énormément, puis dans ce film-là, ça a été remarquable aussi, c'est à partir du moment où on sait qu'on va tourner, et là, on rassemble les acteurs, et là, on parle du film, et là, on parle des personnages. Puis c'est sûr que tu regardes la distribution qui est dans ce film-là, tu sais, ils ont tous apporté quelque chose à leur personnage. Et on réécrit souvent les personnages, on change les situations, tu sais. Avec Anne-Elisabeth, tout le long, elle nous suivait, mais elle a fait des commentaires qui, tu sais, je sais pas si t'as vu le film, je pense.
Oui,
hein?
Oui, j'ai vu.
Tu sais, bon, il y a un truc de télé-réalité à la fin du film, tu sais, mm-hmm. Puis pendant 4 ans, le personnage de Virginie, elle était dans une télé-réalité, mais nous, on voyait le making-of, tu sais, c'est-à-dire qu'elle, voyait le caméraman, mais on n'était jamais dans l'émission. Et c'est Anne-Elisabeth, pendant une rencontre, m'a dit, mais pourquoi, puis ça, c'était comme genre 4 semaines avant le début du tournage, là. Mais pourquoi qu'on n'est pas dans la télé-réalité? Puis moi, j'ai fait tout de suite, ben oui, mais là, il a fallu réécrire 25 pages, tu sais, à un mois du tournage, mais pour moi, ça, c'est exaltant. Puis, tu sais, d'avoir quelqu'un comme Monica Pinon, puis de dire, OK, toi, tu danses, tu chantes, OK, bien, Christine, Virginie, Julie, elle danse, pas elle chante. Puis, tu sais, et là, il y a comme tout, d'aller chercher le meilleur de chacun, puis les idées de chacun, puis les exigences aussi, tu sais. Pierrette Robitaille, elle s'assoit devant moi, elle ouvre le scénario, elle dit ça marche pas. Puis là, je suis comme, ah, t'as raison. Tu sais, c'est de l'instinct pur, c'est de l'expérience. Ça fait 40 ans qu'elle fait de la comédie, tu sais. Puis Rémi Girard, c'est la même chose. Puis Antoine, donc moi, je suis complètement.
Ben, je me rends compte que soit je suis paresseux ou j'avais pas tant de demandes.
Moi
j'ai, pas apporté beaucoup d'eau au moulin, d'abord.
Non, mais...
Moi, j'étais content de ce que tu m'avais écrit,
mais pour vrai,
avec
mais,
ça.
Mais la vérité, t'sais, aussi, c'est qu'on s'était consacré beaucoup à vos personnages,
ben ouais,
pendant 4 ans.
Il y avait beaucoup de love.
Puis là,
déjà,
des fois, tu dis les personnages secondaires. Catherine Chabot, à un moment donné, son personnage... Tu sais, ça, c'est encore un mois avant le tournage. Son personnage était plus culpabilisante, tu sais. Puis là, elle fait comme, ah ouais, mais là, on cherche ensemble. Puis là, d'un coup, je sais pas qui a dit, mais elle pourrait être addict, puis être ça à coke. Puis on a fait comme, c'est bien drôle, ça, mais c'est à un mois du tournage encore, parce qu'on se parle, parce qu'on se rencontre. Fait que là, c'est comme, hey, on fait ça, ça va être bien mieux, bien plus drôle. Puis pour tout le monde, mais vous, on avait travaillé pendant 4 ans sur vos personnages.
Puis comme Catherine est une actrice méthode acting, bien là, elle avait un mois seulement pour consommer
plonger
toutes les
drogues. Plonger au
cœur
de la drogue.
Ouais, aller au fond de ça. Trouver le fond du baril en un mois, c'est
ça
pas évident.
Ça prend une grande actrice.
Oui, puis là, il faut que tu aies un lousse de budget aussi pour ça, parce que
ça
quand même
cher.
Pas donné.
Oui, elle a dû
ouais,
travailler
mais Catherine,
ses factures
depuis 6 ans, elle travaille beaucoup quand même. Fait que c'est... puis non, c'est...
Ouais, vous connaissez tout du monde dans la restauration et tout, fait que c'est facile.
Ah, oh, quel préjugé, voyons donc!
Moi, j'ai essayé de suivre, là. Puis, à ce moment-là, ça fait que sur le plateau, c'est quand même écrit beat par beat. Là, il n'y a plus tant de place à l'impro.
Ah, pas d'impro. Moi, j'aime pas l'impro.
Pas de
jeu d'attente. Non, puis je trouve que moi, je le vois. Même des fois, les grandes comédies américaines, ils ont improvisé. Je vois du monde qui improvise. Ça me tape ses nerfs parce que c'est pas la même place dans le cerveau. Anne-Elisabeth, une grande improvisatrice. Là.
Non, mais ça paraît quand on
oui,
sort du texte.
C'est ça.
Puis là, à un moment donné, ça devient comme plus naturel. Fait que le texte a l'air artificiel quand il y a des scènes improvisées. Puis j'aille ça, moi aussi.
Mais
c'est
on continue quand même pendant le tournage à chercher, puis à se dire, cette scène-là, il me semble qu'il manque quelque chose dans 2 semaines qu'on va tourner. Puis là, on cherche ensemble déjà comment on pourrait s'assurer qu'elle a tout ce qu'elle a besoin. Donc souvent, la journée même du tournage, on a des nouvelles répliques, tu sais, mais jamais je vais demander à un acteur de dire là, écoute, il faut que tu nous trouves un punch, si on manque, il nous manque un punch, tu sais.
Si,
j'essaie
si
vraiment d'avance le plus possible, puis d'en avoir, mettons, 5, on regarde ça ensemble, tu sais.
Si tu veux faire une sieste complète sur ton lunch, là, faut que tu mettes ton téléphone en mode avion parce que sinon, lui, Émile, lui, il fait pas sa sieste, il réécrit des affaires, puis là, t'entends. là, tu regardes.
Que penses-tu de cette réplique au lieu de telle réplique?
Écriture, mais tu sais, c'est tellement le fun parce qu'en même temps...
C'est mieux en général,
ben,
c'est
oui,
ça.
C'est mieux. C'est sûr que c'est mieux, tu sais. Puis nous autres, ça nous garde tout le temps un peu sur le bout des orteils. Tu peux jamais être assis confortablement dans tes pantoufles. Puis c'est un beau mélange, je trouve, entre on se prépare depuis 2 mois à jouer ce rôle-là, mais celle-là... Faut y aller à l'instinct, puis il faut.
Les journées passent bien plus vite. C'est vrai, on est toujours dans le coup de cocher présent. Moi, j'arrive, je suis réveillée, je suis pas comme si tout le monde s'en fout. À un moment donné, tout le monde influence tout le monde sur un plateau, là. Puis ça peut vite devenir comme, je sais pas. Quand quelqu'un perd foi, là, c'est tellement contaminant. Alors
quelqu'un
que quand
quelqu'un est paresseux ou tu sais, ça tire tout le monde vers le bas.
Alors que ça donne le goût de donner son maximum, puis d'être toujours en état d'éveil, là. Bref. Ouais.
Il y a une grande part de succès de la comédie qui vient du montage aussi, ben, de tout film, mais quand même dans la comédie. Puis il y a un... Écoute, ça, je ne l'ai pas vu hier, je l'ai vu il y a une semaine à peu près, là, mais je me souviens que dans le début du film, il y a un beat que c'est vraiment marqué au montage, qui crée un effet comique et tout. C'est toutes des affaires que tu dis, ben, j'espère que ça va fonctionner en montage, on tourne, puis ça devrait se taiter.
Oui, bien aussi, il y a une anecdote quand même, c'est que Sébastien Ravary nous a écrit soudainement comme 4-5 nouveaux mensonges qu'on n'avait pas dans le film, qui étaient vraiment très, très bons. Puis là, j'ai fait, mais tu sais, c'est vrai que Virginie, on n'a pas de montage de mensonges d'elle. Puis là, on avait commencé le tournage. On n'a pas de mensonges d'elle en montage qui nous donnerait une espèce de kick. Ça fait qu'on s'est arrangé pour avoir, mais comme... 200 nouveaux mensonges qu'Anne-Élisabeth et moi, on choisissait à chaque jour en disant ça, qu'est-ce que t'en penses de celui-là? Ah oui, ça, c'est drôle, hein, maudit. Fait que là,
oui, on se rajoutait
à la fin de la journée. OK, on a tout le temps de faire un mensonge aujourd'hui? Oui, il y a une piscine. On va demander aux voisins. Anne-Élisabeth, trouvez-y un costume de bain. Elle couchée sur un matelas. Elle fait son mensonge. On y a réussi à le faire en une demi-heure, tu sais. Parce que, justement, je sentais que le début du film, j'ai réalisé ça, des fois c'est vertigineux, là. Mais tu réalises ça et tu fais comme ça l'aiderait tellement de juste partir le film sur cet élan-là, puis toujours dans l'abnégation, toujours pour rendre les gens heureux, ça devient absurde et ridicule, tu sais. Donc on a senti ça, ce qui fait que ce début-là c'était quand même la chose la plus dure. C'est comme si on avait passé le tiers de tout le temps de montage à monter le début, puis le tiers de tout le temps de mix sonore à mixer le début. À chaque fois qu'on travaillait sur le film, j'ai toujours, faites-vous-en pas là, après la première demi-heure, mais ça a été très complexe de trouver l'espèce d'agencement de toutes ces scènes-là, puis de prendre un mensonge, le mettre dans le milieu d'une autre scène, puis de, tu sais, pour garder ce rythme-là, parce que ça pouvait venir redondant, répétitif. Et donc, ce début-là, le montage, là, ça a été épique pour
c'est
nous.
C'est ça, accentuer le rythme de ta trame principale.
Exactement, avec Arthur Tarnowski qui est le monteur, mais on fait 6 mois de montage. Moi, je suis là 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Tu sais, et je tourne aussi. On a toujours comme un 2h15 de film en partant, tu sais. Okay. Donc, on a l'assemblage 2h15, 2h20. J'ai déjà eu 2h30. Puis là, on travaille, puis tranquillement, le film finit par faire 1h40, 1h45. Mais cette abondance-là de matériel là, au montage nous permet de ne garder que tous les trucs qui, à la fois, sont les plus drôles, mais les plus touchants, les plus, tu sais. Ça fait que ça, cette méthode-là, pour moi, je ne ferais pas capable de travailler autrement. De tourner un scénario de 104 pages, là, je viendrais fou.
Je pense que le seul autre projet qui a passé autant de temps au montage, ça a été King Dave. Pour niche, mais je pense que je peux me permettre de la faire ici parce que votre auditoire est sûrement assez compétent pour comprendre la joke.
Sinon, on dira que, pour ceux qui ne savent pas, que c'est un long plan séquence.
C'est un pléonasme, ça.
Mais le film est un plan séquence complet. Ça serait plus ça de dire.
C'est ça.
Parce que
c'est un long
check,
film.
On est vraiment
avec un plan séquence.
C'est ça. C'est un film interminable avec un. Et puis, je me demandais, c'est ça, on parlait des fameux mensonges que Virginie, ton personnage, fait. On est vraiment dans une thématique de comme bienveillance, finalement. Alors que dans le premier personnage de Louis-José Houd, Simon mentait pour bien paraître, pour lui-même. Là, c'est pour consoler les gens, pour les réconforter, comme on le voit dans bande-annonce, là, ben, calvitie, il faut le dire vite.
Elle veut vraiment que les autres se sentent bien en sa présence. J'ai comme réalisé que c'est son petit antidépresseur. Ça l'empêche d'être dans ses émotions tristes. C'est sa façon d'être toujours dans la joie, d'être toujours un petit peu à côté d'elle-même, mais de... C'est ça,
genre annonce de yogourt, là, le nuage. Là,
mais
tout
non,
est parfait,
tout est beau,
là.
Il n'y en a pas de problème. Tout me fait plaisir. Fait que c'est... On dit que c'est mensonge par bienveillance, mais plus je réfléchis, plus on se rend compte que c'est du narcissisme aussi parce qu'elle veut que les gens l'aiment. On va appeler Virginie tellement gentille. C'est sûr que c'est des gens auxquels on veut se coller, tu sais. Ils vont juste nous dire ce qu'on va entendre. Des fois, c'est ça qu'on a besoin, mais des fois, on aurait besoin d'un tough love un peu, là, peut-être brassé. Fait que, ouais,
elle. Oui, puis ça fait que c'est quelqu'un qui n'est jamais sincère non plus, là, ultimement.
Mais c'est quand elle l'est, elle a même plus accès à sa propre sincérité, je pense. C'est juste un mode de vie. C'est un mode de survie, en fait, pour elle. Je vais dire ça, tout va bien aller. Puis c'est féminin en ce sens que il y a quelque chose qui s'appelle le syndrome de la fille aînée où on se met cette tâche là que tout tienne bien ensemble, que tout soit en équilibre. Donc c'est ça, fait que elle, si sa famille éclate, ben elle, son rôle c'est d'être le miel, d'être l'amour qui va ramener tout le monde ensemble. Fait que elle est juste dans ce mécanisme là, puis elle se demande puis c'est quoi la vérité là-dedans, tu sais. Ouais.
Fait que ouais, là en tout cas, sans... On imagine quand même qu'il va y avoir une fin assez heureuse au film, là, sans spoiler, mais je veux dire, ses épaules doivent redescendre énormément.
À l'idée de retrouver son premier mensonge, c'est de reconnecter à qui elle est, puis tout part d'une blessure, puis quelle est la blessure fondamentale qui fait qu'elle s'est construite de cette manière-là, tu sais, puis qu'elle a senti le besoin de faire ça.
Mais il y a un vertige associé à ça aussi, à retomber, à redécouvrir sa sincérité, quand t'as été si loin puis si longtemps dans quelque chose d'autre.
C'est menaçant, oui.
Mais ben ouais. En fait, c'est pour ça que les scènes avec où Antoine me confronte, c'est comme ça fait, va pas là parce que je m'effondre, parce que si t'en sais juste à ça, ça tient sur un tout petit mur avec une toute petite équerre derrière. Fait que là, si tu défais ça, là, moi, je sais pas où j'atterris. Là. Ça fait des années que je me suis séparée de cette affaire-là. Fait que là, où je vais atterrir, je sais pas. T'sais, je vais me défaire.
C'est inconscient, tout ça aussi inconscient. Oui. Cette espèce de c'est un mode de survie. Fait que le film, c'est ça qui lui arrive aussi. On change de multivers à plein de fois. Puis dans chaque multivers, c'est comme si elle avait une clé sur qui elle était, nouvelle. Puis là, elle a une nouvelle. Puis là, finalement, d'avoir vécu tout ça, ça lui permet à la fin d'être capable de dire qui je suis et pourquoi je suis comme ça.
C'est vraiment l'exercice d'une thérapie, là, d'enlever des couches et des couches et des couches pour arriver au fondement.
Vraiment.
Puis se pardonner aussi de pourquoi on est devenu ce qu'on est. T'sais.
Puis sans, mon but n'est pas de casser du sucre sur le dos du premier film, mais sens-tu qu'à ce moment-là, dans votre écriture, il est devenu plus profond, plus
absolument,
plus vrai,
oui, oui. Mais le premier film, écoute, c'était comme un high concept, tu sais, un menteur qui ment tellement, qui voit ses mensonges devenir réalité. C'était ça notre excitation à ce moment-là. Pourquoi on ment? Par narcissisme, pour se prouver qu'on a, pour notre ego d'une certaine façon. C'est qu'on est allé là à fond avec un multivers d'une certaine façon qu'on a exploité, puis on a écrit cette histoire-là. Puis c'est comme si là, on avait comme trouvé les codes d'un principe, d'un univers, tu sais, qu'on n'avait jamais vu au cinéma. D'une certaine façon, cette idée-là n'a jamais été faite. Mais là, quand on aborde le deuxième, nous, c'est sûr qu'on se dit qu'il faut que ça soit meilleur, il faut qu'on aille plus loin. Donc, on peut pas faire la même chose. Donc, cette idée-là d'une femme qui ment par abnégation, qui ment pour rendre les gens heureux, ça nous a beaucoup excités. Et cette idée-là qu'elle continue à mentir. Donc là, on change pas juste une fois de multivers, on change trois fois, quatre fois de multivers. Donc ça, comme scénariste, ça nous a énormément emballés puis excités. Puis là, on se disait, oui, on a quelque chose. Et je pense que c'est ce qui fait, je pense, que celui-là est meilleur. C'est-à-dire qu'on a bâti sur la fondation du premier. Puis comme il existait ce premier-là, on a pu aller plus loin. T'sais, avec aussi un personnage principal, avec une actrice qui est capable d'être très, très, très vrai dans l'émotion, puis très, très, très drôle, tu sais. Donc ça nous a donné aussi ce champ-là d'écriture.
Il y a dû avoir encore plus d'idées puis de multivers exclus que ceux qu'on voit dans le film. J'imagine qu'en brainstorm,
oui,
tout était possible.
Oui, c'est
qu'est-ce
sûr
qu'il y avait donc? Qu'est-ce qui était coupé?
Ben écoute, je ne m'en rappelle pas parce qu'on lit... Écrire ces films-là, c'est aussi de se dire... Qu'est-ce qui peut être drôle pour Antoine? Qu'est-ce qui peut être drôle pour Rémi? Puis là, après ça, ben, on invente le mensonge. T'sais. C'est comme, des fois, j'ai l'impression qu'on écrit un James Bond, tu sais, dans le sens de dire que là, on est conscient qu'on a besoin de plusieurs poursuites. Tu sais, ça fait qu'on a besoin quand même d'un moment comique très fort. Donc, on les a, nos moments comiques très forts. Puis après ça, on y met de l'émotion, puis on met un lien qui se tient, tu sais. Mais à la base, on sait qu'on a besoin d'avoir des moments comiques qu'on n'a jamais vus, qui sont drôles. Puis là, on avait des génies de la comédie comme acteurs. Ça fait qu'on s'est toujours demandé Pierrette, Rémi, Antoine,
Luxonné,
ouais. Comment on peut leur donner aussi ce moment-là où ils vont pouvoir s'éclater puis mettre tout leur talent au service de l'histoire?
Je pense que dans Nitro Rush, ils ont fait un peu le même principe, mais avec les visites de location. Ils sont allés voir les lieux, ils ont choisi des lieux où Guillaume pouvait arriver d'arbre en arbre en faisant du trapèze.
Ouais, ou la plus petite fenêtre possible.
Exactement. Ils ont dit, il peut passer par là, on choisit cette maison-là.
Ben, c'est Mission Impossible. C'est ça.
Ben oui, sûrement.
Fait que, voilà. Est-ce que vous avez gardé des faux plis de ton ado attardé ou ta nunuche?
Ah, mon Dieu! En fait, j'ai acheté pas longtemps après le dictionnaire du chiller
De Jérôme 50. 50.
Et là, j'aurais beaucoup aimé l'avoir avant, parce que là, premièrement, ça m'aurait permis de comprendre mes dialogues. Mais je l'ai envoyé à Éric Caboulian, parce que je pense que c'est Éric qui a beaucoup écrit.
Sébastien,
ouais, parce que les autres, ils connaissent encore des jeunes dans leur entourage. Non, j'ai pas. J'ai gardé une coupe d'anglicisme, mais à un moment donné, un gars de 47 ans qui drop du slang comme un gars de 14, c'est un peu comme une fille de 50 qui s'habille à Forever 21, tu sais. Fait que ça a été facile de le laisser de côté. Et même ma chorégraphie TikTok, je pense que j'aurais bien de la misère à m'en rappeler là.
C'est ça, tu t'es pas parti un compte suite à ça.
Non.
Moi, ma nounuche, je trouve qu'elle revient quand je suis hangover.
Ah ouais,
quand ma pensée est lente, là, quand j'ai de la misère à formuler ce que je veux dire, on dirait que tout ce que je dis, ça devient de la science nucléaire. Là. Je veux juste dire, il faisait plus froid hier qu'aujourd'hui. Je fais, hier, c'était moins chaud, dans le fond. Que, on dirait que j'ai la barre des principes qu'on
fait. T'as juste tes antonymes en tête.
Je suis juste fatiguée. Fait que, ouais, la nounuche, elle est jamais bien loin.
Puis, c'était quoi les lèvres? C'était des fausses lèvres ou t'as pas eu...
Oui, non, c'était vraiment le même...
pendant 6 mois.
Non. Ils ont fait un moulage de mon visage. Là. Ils ont fait un négatif. Après, ils ont collé des lèvres. C'est vraiment moulé sur les miennes.
Okay.
Prothèse du bye-bye, là. C'est le gars qui faisait les prothèses du bye-bye.
C'est un grand artiste des effets spéciaux.
Oui, il est super.
Physique, tu sais, maintenant, des effets spéciaux qui sont générés par ordinateur. Mais il y a encore des effets spéciaux physiques. Puis lui, c'est le meilleur à Montréal. Puis hyper consciencieux. Il est arrivé avec ses lèvres-là. Puis c'était toute la journée, on surveillait. Puis
Oui, c'était quand même fragile. Il fallait que je boive avec une petite paille, j'ai pas mangé. Puis c'est un peu comment c'était collé, ça donnait un petit peu
ça
le petit parler aussi. C'était pratique.
C'est le même gars qui avait fait les effets spéciaux du poil de la bête. Je termine avec ma troisième référence.
Ben là, auto-référence. Je l'ai jamais vu, lui, par exemple. J'ai essayé de le trouver, puis étonnamment, il est pas sur toutes les plateformes.
T'es pas seul à pas l'avoir vu, puis je t'enverrai pas
de lien. T'as pas une caisse de DVD dans ton sous-sol?
Non, mais des fois, c'est le fun. Moi, je relis pas ce film-là. Il y avait des bonnes affaires dedans, mais c'est le fun aussi. Ça nous rend humains, et ça nous montre à quel point ce métier... Dis-toi qu'il y a autant d'efforts d'un film comme ça que dans un grand succès.
Assurément, c'est ça. Puis d'ici là, vous venez de tourner ensemble Les Furies. Oui. Rendu, pas un couple, mais un duo de comédiens
qui vont
jouer à jamais.
À Star, moi, si Anneli n'est pas dans le film, je dis non. Oui, mais par contre, c'est vraiment en mineur. Moi, ce que je fais dans Les Furies, c'est cette gang de féroces furies-là, de femmes, de beaux personnages. Là, Anneli est vraiment plus présente dans ce scénario-là de Gabriel Côté. Là.
Mais oui, Antoine fait notre demi-frère à Gabriel Côté et moi.
Okay.
Et c'est un peu le villain dans l'histoire.
C'est quoi son caractère?
À Antoine?
Oui, dans le film.
Couillon.
il était décrit comme un redneck sensible, puis je trouve que ça le décrit assez bien.
Mais ce qui en ressort, c'est couillon. Non, c'est pas vrai. mais je sais pas, mais oui, mais moi aussi, je tournerai avec Antoine tout le temps. Il élève la barre tellement haut, il est tellement élégant et professionnel, et il donne pour le club à chaque jour, il est jamais éteint. C'est vraiment un comédien généreux, talentueux, toujours à la recherche de la vérité. Sincèrement, je n'ai que du bon à dire d'Antoine Bertrand.
Bien, on voit de toute façon les deux que vous êtes très aimant de votre métier aussi, de cette forme
des
privilège,
oui,
mais qui vient
aussi
d'un
talent.
Essayer d'être méritant aussi, tu sais,
oui,
ouais.
Voilà. Dans la gratitude.
Fait que si nous, on continue au fil des années, peut-être que dans 25 ans, on fera des podcasts, puis là, je vais peut-être dire, ouais, on dirait que t'as perdu un peu de magie, là.
Oui, tu pourras,
je t'encourage à nous le dire, si jamais tu sens qu'à un moment donné, on joue fessier, comme dirait ma blonde, là,
oui.
Tu nous le diras.
Ah, c'est
puis,
bon, jouer
toi,
fessier.
Emile, est-ce que tu travailles sur autre chose d'ici, peut-être, une
oui,
suite,
oui,
on change d'univers un peu?
Oui, oui, des super beaux projets, là. On finit menteuse, là, mais oui, j'ai un film historique, j'espère tourner. Coproduction en France aussi, j'aimerais ça tourner. Donc, puis j'ai un autre scénario déjà écrit. T'sais. Moi, j'écris tous les jours, c'est que j'ai pas tourné pendant 5 ans. Donc, j'ai comme tellement de scénarios déjà.
OK, ouais, puis tu sais, la guerre du. Pas la guerre, mais la bataille du financement un peu. Là,
c'est ouais, c'est ça. Chaque fois, c'est toujours une question à savoir, est-ce qu'on va réussir? Mais bon, c'est le lot de tout le monde qui font
ça. Mais c'est rendu ça, hein. Tu sais, à Téléfilm, c'est comme le Hunger Games. Là, ils mettent l'enveloppe au milieu, ils réunissent 160 cinéastes. Puis avec 3-4 armes là, de ton choix.
Une vieille machine à
le dernier.
Des catapultes, des vieilles choses. Là.
Oui,
oui,
c'est
oui.
Des stylos,
des machines à écrire.
Émile qui a tué Guy Edouin dans le living room avec la Dactylo. Donc, c'est lui qui va avoir son film cette année.
Ou c'est juste 500 000 de plus. Ton film, ouais. Il y en a un autre, là, c'est ça. Puis voilà, on encourage tout le monde à aller voir Menteuse en salle, qui est une excellente sortie, beau temps, mauvais temps, combattre le cinéma américain par des excellents produits québécois.
Fait que t'aimais ça?
Oui, je trouve que c'est justement, s'il y a pas le, on revient à ce qu'on disait d'entrée de jeu, pas le défaut d'être juste, c'est grand public. Ce qui veut un peu rien dire, c'est qu'au final, il y a des blagues qui m'ont vraiment touché, là, qui ont vraiment
fait mouche
voilà, sur moi. Fait que oui, je trouve que c'est une valeur sûre, finalement. On y trouve son compte. Est-ce que déjà, il va y avoir une adaptation internationale? Est-ce que les droits, vu que le premier était acheté...
Il y a
acheté...
vraiment, en ce moment, des négociations avec un gros major américain, là. Ah, mais ouais, okay. Je dois t'avouer que c'est un peu surréel, tout ça. Parce que
je savais pas!
Oui, je suis là-dedans. En ce moment, je reçois des textos puis des courriels. Puis c'est complètement débile, mais c'est une des grosses multinationales de la planète là, qui veut faire un remake. Mais...
Dans les négos, j'imagine que tu te bats bec et ongle pour que moi et Anneli, on joue nos rôles.
Oui, Tony
Bertrand.
Ce qui est drôle en ce moment, juste pour vous dire, c'est qu'en ce moment, là, on reçoit des contrats, c'est comme eux autres. OK, toi, tu ne payes pas beaucoup d'argent. Cette idée-là, maintenant, t'appartient. Tu peux faire des séries télé, trois films.
Ah, oui.
Tu peux les faire dans toutes les langues du monde, mais nous, on n'a pas. Ça nous appartient plus. Donc là, on est en train de dire, hey, on a-tu besoin de faire ça, nous autres, de donner cette idée-là à un. Mais on est là-dedans. Ça fait que c'est assez passionnant quand même, c'est pas plate.
C'est ça, parce que tant qu'à recevoir pas trop d'argent, de voir juste ton produit aller se dénaturer s'évaporer.
Mais c'est tellement. Ce qu'on en disait, c'est Trump qui a écrit le contrat qu'on a reçu. Tu sais,
il
y a le gros bout du bâton, eux autres, c'est la méga corporation, ils ont le gros bout du bâton. Donnez tout. Vous êtes bien chanceux, là, tu sais, si on vous donne des notes.
Puis ils te forcent à dire merci en réunion,
Ben là, nous, on reçoit le contrat seulement, on leur parle pas, mais en tout cas, c'est assez fascinant quand même de voir
But I'm
le
sure they're listening to us now, and if they're looking for a lead actress, my English is really... I have no accent. I think we can hear it.
My name is Tony Burt, and I'm as well pretty good in English.
Pretty
it's not
good.
My first language, but you know, in comedy...
comedy.
I can adapt myself, so Steven... Or Francis Ford, we are available.
Merci tout le monde.
Merci
à toi.